Donc, Éphésiens 4. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Des traductions, la traduction, si on traduit vraiment le texte grec, c'est étant monté en haut. Il a emmené captive la captivité. Il me paraît intéressant cette traduction. Il a emmené captive la captivité et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef ou la tête, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Alors je suis fondé à revenir à ce qui précède dans la lettre aux Éphésiens, puisque le passage de chapitre 4 commence par « Je vous exhorte donc ». Donc, c'est qu'il faut connaître ce qu'il y a avant pour... ça c'est les matheux, c'est comme ça, hein, une démonstration. Et donc, si, machin, or, donc. Donc, alors, qu'est-ce qui précède? Je vais essayer de pas être trop long. On va prendre un peu de temps quand même. On est pas nombreux, on est entre nous. La lettre aux Éphésiens, elle est, bon, elle est d'une richesse. C'est une lettre qu'on dit très, très spirituelle, riche en éléments de doctrine, hein, dans l'Église. Elle balaye pas mal de choses. Je vais revenir sur quelques-unes. La vocation céleste du croyant et le moyen d'y entrer, à savoir le plan du salut. L'universalité du salut avec tout un développement juif et grec, mais ce ne sera pas mon propos ce soir. L'Église et les ministères, hein, c'est dans le chapitre 3, et puis là, clairement dans ce chapitre 4. Et puis ensuite, une partie extrêmement pratique sur les effets et les conséquences de de cette vie nouvelle en Christ dans la vie personnelle, dans l'Église. Ça va de soi, de toute façon, si on est converti, né de nouveau, j'y reviendrai, on est nécessairement dans l'Église. Il n'y a pas d'option là-dessus. Il n'y a pas, ah ben moi je prends l'option solo. Ça n'existe pas. Hein? Donc, non, mais c'est important cette histoire-là parce qu'il y en a qui semblent oublier ça. Hein? Et l'Église, je ne parle pas des murs. Hein? Et puis, les conséquences de cette vie nouvelle au milieu du monde. Au fur et à mesure qu'on avance et on comprend bien pourquoi il y a toute une longue partie doctrinale et on va dire de longs préambules de Paul, de cette révélation merveilleuse qu'il a, parce qu'il va traiter un moment d'un sujet tout à fait explosif qui est tout le problème de la soumission et de l'intersoumission, à peu près dans toutes les postures. Et là, on comprend bien qu'il y a un long développement avant d'aborder ce sujet. Et c'est pour ça aussi que je vais revenir un peu au début. Et puis, comme tout ce qu'il évoque dans cette épître aux Éphésiens est extrêmement sérieux, profond et on pourrait dire révolutionnaire, c'est une richesse de révélation énorme. Il sait que ça ne plaît pas à l'ennemi et c'est pas un hasard non plus si tout le thème du combat spirituel est placé à la fin de cette épître. Parce que les révélations qu'a Paul dans cette épître sont absolument extraordinaires. Je commencerai parce qu'on y fait allusion dans le passage qui m'est donné de traiter, c'est le problème de la vocation céleste. Ça, c'est nous exposé dans le chapitre 1er qu'on va pas lire, mais ça nous est dit tout de suite. Il faut qu'on ait ces idées-là bien posées en tête. Souvent, nous abordons le christianisme sous l'angle du salut. Même je l'ai fait ces derniers temps avec nous avons tout en lui, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc on insiste beaucoup sur les moyens de rapatriement du monde des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour. Là, Paul nous pose tout de suite, d'entrée de jeu, voilà ce que vous êtes en Christ. Et voilà à quoi vous êtes appelés. La vocation des chrétiens. C'est dit à quatre reprises dans le chapitre 1, au verset 6, 12 et 14, c'est célébrer la gloire de sa grâce. Et ça, faut qu'on va se poser quelques trucs comme ça. Excusez-moi l'expression, c'est pas très beau, les trucs. Quelques faits majeurs, c'est des faits. Paul nous expose des faits spirituels, mais des réalités. Il nous dit, voilà, vous qui êtes nés de nouveau. Et là, je fais une parenthèse. Souligne toutes les épîtres, peut-être paraître des évidences pour beaucoup, sont adressées et supposent, soient lues et ne peuvent être comprises que par des gens qui sont nés de nouveau. Parce que si ce n'est pas le cas, je peux vous dire que ce qu'on va voir dans les applications pratiques, que celui qui dérobait ne dérobe plus, que ceci, que cela, c'est pire que la loi de Moïse. Donc il y a. C'est la nécessité, les lettres sont adressées à des chrétiens nés de nouveau. Sinon, c'est les pires lettres de découragement et de désespoir qu'on puisse lire. Ou alors, des choses qui vont amener des comportements religieux et un désespoir profond, parce qu'on ne va pas y arriver. Hein? Vous me suivez? Oui, je pense. Donc, le préalable, la vocation céleste. Et ça, c'est important. Il nous place d'entrée de jeu en disant, voilà, vous êtes destiné à ça. Bon, ben, ça aide déjà pour comprendre ce qui nous arrive dans la vie. Quand on sait, Laetitia, elle va avoir un problème de cou, là. Je me disais, on n'est pas très nombreux, je n'ai pas besoin de me mettre sur l'estrade, mais finalement, bon, on voit à quoi sert l'estrade. C'est bien, attendez, c'est bien qu'on le dise, parce que souvent, il y a des gens qui disent, ah, ils se mettent sur l'estrade, etc. Ben, c'est pour une raison extrêmement pratique. Voilà, pour une raison extrêmement pratique. Et voilà, c'est bien mieux comme ça. Donc, notre vocation, retenons ça, célébrer la gloire de sa grâce. Deuxième thème qui est important, la position de Christ. Où est Christ aujourd'hui? Ça nous est dit. Christ l'avait annoncé hein, dans Matthieu, devant le Sanhédrin, qui va le condamner. Et vous, je suis le Fils de Dieu, et vous verrez. Les anges descendre, etc., et le Fils de Dieu monter du ciel, etc. Voilà, il l'a annoncé, c'est réalisé lors de sa résurrection, hein, et ça nous est dit dans Éphésiens, voilà, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, je ne vais pas développer ce thème-là, quand vous voyez l'enchaînement des mots de puissance, la puissance de résurrection de Dieu qui a ressuscité d'abord Christ. Donc, il est le premier en tout, il est le premier ressuscité par la puissance glorieuse du Père, agissant avec efficacité par la vertu de sa force. Vous vous rendez compte, ces mots. Hein. Il est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes et il est le chef suprême de l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et ça nous amène effectivement à l'Église. Un mot qui, même pour nous, on se dit, ben non, on sait bien que c'est tous les croyants, etc. Mais l'Église... Oui, l'Église, c'est le corps de Christ, c'est une entité spirituelle. Spirituelle ne veut pas dire fumeuse, je veux dire spirituelle, hein, pas matérielle, de tous ceux qui ont reçu cette révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Hein. C'est aussi l'épouse. Ça, c'est, vous n'avez pas dit dans Éphésiens, mais c'est une notion importante. C'est l'épouse qui se prépare à rencontrer l'époux. Et cette préparation a consisté en ce que l'époux a livré sa vie pour l'épouse. Et, vous connaissez la suite, elle a nourri par l'eau de la parole. L'époux nourrit son épouse par l'eau de la parole. Nous demandons, nous avons chanté, et nous avons raison, Seigneur, que ces lieux soient visités dans cet esprit. Mais quand on regarde dans l'Ancien Testament, mon mais n'est pas un mais d'opposition. Mais quand on regarde dans l'Ancien Testament, et à tout moment dans l'histoire, c'est quand des gens sont revenus aux vérités bibliques. Sous Esdras, sous Ézéchias, on a ressorti les livres, on a relu, on a pleuré, parce qu'on a vu qu'on s'était écarté. Et là, il y a eu des temps de réveil. La parole n'agit pas sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se plaît à agir quand les croyants vont lire ce qui est mis dans la parole. Et ça nous a été rappelé mardi. Il y a, c'est le pain et l'huile qu'on va retrouver dans les offrandes dans l'Ancien Testament. Le pain, c'est la parole, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Il faut bien que les deux soient ensemble. Ne cherchons pas à opposer, ça c'est des œuvres du diable. Hein. Mais là, quand on va revenir, on l'a chanté aussi, si on revient, Seigneur, on a vu le standard, on vient de relire le standard, on a vu qu'on s'est écarté, Seigneur, pardon, on s'humilie, on revient. Le Saint-Esprit aime alors intervenir sur l'ordre du Fils bien-aimé du Seigneur Jésus-Christ. Donc l'épouse qui est nourrie par l'époux, par sa parole, qui est lavée, qui restaure, qui guérit, afin que l'épouse soit prête pour le retour de l'époux. Alors j'ai fait ces petits rappels, enfin un petit résumé un peu de ce qui nous est dit dans Éphésiens. Je voudrais insister sur une chose, c'est que toutes ces choses ne sont pas des promesses. Ce ne sont pas des promesses, mais des choses accomplies, réalisées, ce sont des faits spirituels. Paul nous expose là ce qui est pour celui, pour celle qui est née d'en haut. Et il nous dit, voilà ce que vous êtes. Où est Christ aujourd'hui? Ce qu'est l'Église? Et il nous demande d'accepter ces choses par la foi. Et dans le chapitre 2, il va nous montrer comment les croyants, c'est-à-dire ceux qui les croyants, c'est les incrédules qui se convertissent, hein, vont être intégrés dans ce corps. Et la position spirituelle du croyant, que nous expose Paul dans le chapitre 2, c'est la même position que Christ. C'est les mêmes termes qui sont employés. Il nous a fait, Christ est le premier, il est assis dans les lieux célestes par sa résurrection. Et ceux qui viennent à Christ, ceux qui par la conversion en fait, de repentance et de descente de cette nouvelle vie, de cette reconnexion avec le ciel, se trouvent assis aussi dans les lieux célestes avec Christ. Ainsi, le croyant n'est pas seul. Nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Et à mon avis, beaucoup plus proche, assis autour de Christ, assis avec Christ, beaucoup plus proche que nous ne le sommes dans cette salle. On va y revenir. Le croyant n'est pas seul, il est membre d'un corps et fait partie de l'Ecclésia, dont je rappelle que l'Ecclésia, c'est un rassemblement. Ça, on aime bien. Hors d'eux, des fois, on aime moins bien. L'Église est un rassemblement spirituel. C'est pas un club. C'est dans ce sens-là, c'est ça qui nous permet de dire que c'est pas un club. Peut-être on peut s'arrêter 15 secondes là-dessus. Nous vivons, nous sommes quand nous nous réunissons pour le culte, il y a plus, j'allais dire plus et moins que l'Église, il y a des hommes et des femmes qui s'assemblent. Mais j'allais dire, peut-être je vais vous choquer, mais pour des raisons sans doute, à un stade donné, bien différentes. Il y a ceux qui sont nés de nouveau, et ils savent pourquoi ils sont là et qui viennent célébrer, et puis il y a ceux qui cherchent. Et quand je dis ça, ne soyez pas heurtés. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas méprisant, ce n'est pas ça. Mais c'est fondamental de savoir qu'il y a ces deux situations-là. Les uns sont l'Église, ils sont, c'est un fait, c'est pas, oh, ils ont une médaille, ils sont l'Église, parce qu'ils sont nés de nouveau, donc ils sont incorporés au corps. Alors on va le voir, il y a encore de la transformation, il y a encore du chantier, il y a de la restauration en cours, il y a tout un boulot à faire, et la tête est en train de coordonner tout ça. Mais il y a une différence fondamentale. Il y a une différence fondamentale. Pourquoi je dis ça? C'est important parce que souvent, dans notre marche chrétienne, nous avons des restes d'un humanisme et de bons sentiments. Nous fonctionnons sur le plan psychique, émotionnel et sentimental, et on veut être piou-piou avec tout le monde, etc. Et peut-être que ce faisant, d'ailleurs, on empêche des personnes qui sont dans une recherche en tâtonnant, d'être touché par Christ, parce qu'on veut peut-être les sortir de problèmes. C'est bien de sortir les gens de problèmes, mais on veut peut-être les sortir de problèmes que Dieu est en train de permettre pour qu'ils fléchissent le genou. Donc il faut que ce soit bien clair, ça. Il y a ceux qui sont en Christ, et si certains avaient sujet de se glorifier, Romains 3, 21 nous rappelle qu'il n'y a aucun sujet de se glorifier, puisque c'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Donc je suis très à l'aise là-dessus pour dire ça. Il n'y a aucun sujet de se glorifier. Par contre, je crois que c'est important qu'on ait cette notion-là. Ce n'est pas une parenthèse, c'est quelque chose de très pratique, je crois, dans notre marche chrétienne. Mais notre âme, elle aime bien faire des cajolins, des machins, tout un tas de choses sympathiques. Sympathique, le monde associatif dans le monde adore ça, hein, des festins, des trucs, on fait des aides, c'est bien, c'est pas mal, ça mange pas de pain. Hein. Mais attendez, on est appelé à autre chose, nous. On est appelé à autre chose, à célébrer la gloire de sa grâce. Et à être l'étendard dans ce pays, c'est bien de le chanter, mais l'étendard dans ce pays, il est quand Christ est formé en nous. Alors, à la nouvelle naissance, retenez ça, je crois que c'est un truc important, il y a toutes les caractéristiques de la nouvelle créature en potentialité. Tout et tout de suite. Il y a toute la nouvelle créature dès la nouvelle naissance. Comme un bébé, tout est en place, il y a tout. Il y a toute la potentialité, ça va se développer. On m'a expliqué que c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Ça tombe bien, pour nous, c'est pareil. Hein, c'est d'abord le système nerveux, puis ça va jusqu'aux membres. Et on acquiert de l'agilité en grandissant aux extrémités du corps. Mais c'est tout le système nerveux central qui se met en place et qui se développe. Eh bien, dans la vie nouvelle en Christ, c'est la même chose. Donc, chose importante, dès la nouvelle naissance, il y a tout ce qu'il faut. Et en même temps, c'est le pas encore. C'est tout, c'est déjà tout, mais pas encore. Il y a la nécessité d'une croissance sur la base d'une nourriture céleste, le pain descendu du ciel, incorporé à notre nouvelle nature par le Saint-Esprit. Hein ? Je reste fidèle à l'image du pain et de l'huile. Hein ? Et c'est ça qui nous est exposé dans la marche chrétienne au chapitre 4. Donc je résume, le pardon des péchés c'est gratuit pour tous, l'intégration dans le corps spirituel par la nouvelle naissance, on est intégré dans l'église de Jésus-Christ, on est ensemble, on est appelé à vivre ensemble, l'aîné nouveau, je ne fais pas un corporatisme, hein, j'espère que je suis bien compris là-dessus, mais je crois que c'est nécessaire de le dire, de repréciser des choses, hein. Je dirais un peu anatomique. Et j'ai insisté ce midi, le temps de prière, j'espère que je ne vole rien à Daniel, mais quelque chose m'a touché. il faut pour, on parle beaucoup de l'unité. Pour qu'il y ait une unité du cœur, il faut qu'il y ait une unité de nature. Sinon, il y a des greffes qui ne prennent pas. Il y a même du rejet. Donc le corps de Christ, c'est le corps de Christ. C'est fait avec l'aîné nouveau, ce n'est pas fait avec d'autres. Et ce corps est appelé à manifester la richesse infiniment variée de Dieu auprès de ce monde et des puissances et des dominations dans le ciel. Mais le corps de Christ, c'est ça. Donc pardon des péchés, intégration dans le corps spirituel, ensemble dans ce royaume, justice, paix, joie, position dans les lieux célestes. Tout ça, c'est réglé potentiellement à la nouvelle naissance. Et j'ajoute que nous n'en ayons pas conscience pleinement au moment où nous vivons la conversion et la nouvelle naissance, c'est un autre sujet ça. Ça n'empêche pas que c'est comme ça. Le bébé, il ne connaît pas tout le potentiel qu'il a. Mais au fur et à mesure de la croissance, nous sommes appelés à découvrir nos potentialités et à bien les utiliser, comme l'enfant qui va grandir. On n'est pas destiné à rester sans cesse des enfants sous des précepteurs, des machins, etc. On est appelé à jouir, jouir de notre héritage céleste, mais et de manifester ce que Dieu va donner pour le manifester au monde. Je vais aller rapidement maintenant, je voulais quand même bien regarder ça, je voudrais aussi revenir sur deux prières qui nous parlent aussi du début et de la croissance, les deux prières de Paul dans Éphésiens. La première prière c'est « J'ai entendu parler de votre foi et maintenant je prie que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur et vous révèle la richesse de l'espérance ». Qui est attaché à cette vie. Ça, c'est vraiment sa prière que vraiment ça vient percuter. Et au chapitre 3, il va faire une autre prière. Je prie que vous soyez fortifiés. Alors là, on est déjà dans la croissance. Fortifiés dans votre être intérieur. Et alors là, c'est fondamental. Et enracinés, l'arbre a disparu. Enracinés, j'aimais bien sur le roc, ça ne s'est pas dit dans Éphésiens, dans l'amour. Dans l'amour. C'est la bonne terre pour la croissance de cette vie qui a été plantée. Alors, on va venir, ne croyez pas que j'ai fui, mais finalement, les thèmes qui sont traités dans Éphésiens 4, c'est des thèmes à tellement de disputes. C'est pour ça que j'ai pris un peu de précaution. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père à tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Ok. Donc, on a le même Dieu, il y a l'égalité parfaite. Oui et Amen. 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 Il y a un seul Dieu et Père de tous. Jésus va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père. Mon Dieu et votre Dieu, on a le même Père et le même Dieu que le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce thème est développé de l'égalité stricte, de l'amour de Dieu, d'un enfant de Dieu par rapport à un autre enfant de Dieu. Il n'y a aucun problème. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous, dans Éphésiens 4, verset 6. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. C'est clair et net. Mais, parce qu'il y a un mais, ce n'est pas moi qui l'ai mis, mais il est là. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et là va suivre le passage qu'on va commenter. Il est dit que, étant monté, alors j'aime bien vraiment ce verset, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Il a emmené captive la captivité. Il a ôté, par la révélation dont on vient de parler, la captivité, le péché, et il nous décrit notre nouvelle situation, il nous décrit notre nouvelle identité, et c'est en ce sens qu'il a rendu captive la captivité dans laquelle nous étions dans les ténèbres, on n'y comprenait rien à ce qu'on vivait. Et maintenant, il a fait des dons aux hommes. Donc, on est bien d'accord ? Un seul corps, un seul esprit, un seul Dieu qui est tout en tous, une stricte égalité. Il n'y a pas qui sont rachetés d'une façon puis d'autres d'une autre. Et il n'y en a pas qui sont rachetés seuls et d'autres qui seraient rachetés avec d'autres. Non, rachetés, incorporés dans l'Église de Jésus-Christ. Il n'y a pas le choix, pas d'option, pas de choix de la couleur. Alors la couleur, si, mais ça, on a tous une couleur particulière, mais c'est comme ça. Par contre, il a fait des dons aux uns et aux autres comme il a voulu. Alors comme il a voulu, ne pensons pas, c'est une espèce d'arbitraire. Tiens, je vais lui donner ça. Non, parce qu'il y a des millions de cellules dans le corps et il sait exactement ce qu'il veut donner parce que lui sait où cette cellule-là, finalement, avec sa croissance, son développement, elle va s'acheminer. Le jour, lors du conseil d'église, on échangeait un peu sur ce thème-là, dans le fond, et on disait, ben, c'est vrai, le corps, alors là, on peut y aller. Hein. Le corps, il y a le squelette, hein. Donc des choses qui structurent plutôt, qui paraissent comme ça. Alors pour certains, vont dire, oh, ouais, moi, j'aimerais pas être un os, c'est dur, ça, un os. Hein. Puis, bon, finalement, un os ne fait pas trop ce qu'il veut non plus. De toute façon, personne ne fait ce qu'il veut parce qu'ils sont tous attachés. Hein. Certains os, si on prend que les os, ils ne sont pas attachés entre eux, mais il y a quand même des articulations, on voit bien que c'est fait pour être en proximité. Et d'ailleurs, quand c'est plus en proximité ou que ça frotte, ça fait du mal. Hein. Marie-Thérèse et d'autres en savent quelque chose, on est obligé de changer. Donc on voit bien, de toute façon, on peut faire celui qui n'a pas vu que j'avais cette forme-là et que je dois aller avec celui-là. Eh bien oui, le tibia ne choisit pas d'être à côté du péroné. Hein, ça, c'est important d'être comme ça. Puis après, il y a d'autres liens. Il y a les muscles. Alors moi, j'aimerais bien être un muscle, c'est costaud, ça fait bien. Bon, mais les muscles, ils sont attachés aussi par des tendons. Et puis, ah ben, tendon, c'est bien, ça, c'est... Ouais, c'est un peu filandreux, là. Ça tient le truc, quoi. Ben oui, mais il est attaché aux muscles, il est attaché aux os, lui, en plus. Donc, de toute façon, tout le monde est attaché. Sinon, il y a de graves dysfonctionnements. Il y a de graves dysfonctionnements. Donc, il a fait des dons aux hommes. Chaque cellule, bon, peut-être je vous l'ai déjà dit, mais moi j'avais suivi la thèse de ma fille là, qui, sur la réparation d'une membrane qui est entre le cerveau et je ne sais pas quoi, là, sous le cerveau là, qui protège. Et pour réparer ça, même technique que les pneus, vous savez qu'on répare avec des bouts de caoutchouc qu'on enfonce, des mèches de caoutchouc, ben, ils font pareil avec de la graisse. Alors pourquoi la graisse? Parce que les cellules de la graisse sont des cellules qui vont s'adapter et se transformer selon le tissu où elles sont implantées. C'est quand même des cellules très particulières. Hein. Donc voilà, le Seigneur, il a fait tout ça. Il sait chaque cellule, il sait à quoi ça va servir, etc. Donc il a fait des dons aux hommes, et nous sommes tous appelés, c'est pas mon thème ce soir, d'aspirer aux dons, mais d'aspirer aux dons. Pas de convoiter les dons, mais aspirer aux dons. Aspirer aux dons, ils nous sont tous décrits. Il y en a qui veulent des dons de puissance. Aspirez aux dons. Ne demandez pas lesquels. Demandez ceux dont vous avez besoin au fur et à mesure qu'on comprend ce que le Seigneur veut faire de nous. Il a plein de moyens de nous le faire comprendre. Seigneur, attends, je vois bien que tu m'orientes là, mais je ne suis pas équipé. Tu pourrais m'équiper. Donne-moi ce qu'il me faut. Et il va donner. Voilà. Donc, à chacun, il donne des dons. 1, 10, et ce n'est pas limitatif à ceux qui sont énoncés dans les Corinthiens 12, etc. Hein il nous dit, aspirez par-dessus tout, je vais vous montrer la voie par excellence en 1 Corinthiens 13, l'amour dans lequel on doit être planté. Alors il a fait des dons aux hommes, ça c'est au verset 8. Et au verset 11, et j'ai bien revérifié ce soir, il a fait des dons aux hommes, d'une part, et d'autre part, et il a donné des hommes à son corps. Et vraiment, je crois que c'est important. Là, je vous dis, là, c'est le sujet le plus... Souvent, les gens, ça remue dans tous les sens, mais c'est comme ça. Il y a dans le corps des organes particuliers. Je ne connaissais pas assez en anatomie, mais... Bientôt, Gilles va être à la retraite, il va pouvoir me faire des cours un peu plus complets. Hein. Parce que franchement, c'est extraordinaire. N'oublions pas que le naturel est avant le spirituel et le Seigneur nous parle par sa création et par notre corps, quand il parle du corps. Il le fait lui-même, et je crois qu'on peut aller beaucoup plus, enfin, pas beaucoup plus loin que le Seigneur, mais pour comprendre les choses. Il y a par exemple des glandes, hypophyse, thyroïde. Prenons la thyroïde. Regardez comme la thyroïde joue sur l'humeur. Pas besoin d'être tout bip pour savoir ça. Ça aperçoit. On dit, tiens, bon, des fois, il faut réguler. Donc, c'est des organes de régulation. Regardez la moelle osseuse qui sert entre autres, je crois, à fabriquer les globules rouges, quelque chose comme ça, hein, dans le sang. Des organes très, 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 très particuliers. Bon, le cœur qui est unique, il est unique, il est remplaçable, bon, mais c'est qu'une pompe, c'est pas celui qui m'impressionne. Enfin, il est extraordinaire, hein, parce que sans lui, on est mal quand même. Hein. Mais il y a des organes qu'on n'arrive pas à remplacer. Je crois qu'il y a le pancréas qui a un organe très très particulier. Eh bien écoutez, en tout cas, je ne sais pas dans le corps de Christ, je ne peux pas amener les comparaisons plus loin, mais ce que nous dit la parole, et quand elle nous dit, ce n'est pas un problème de traduction, c'est très clair. Il a fait des dons aux hommes, à tous, et par ailleurs, il a donné des hommes à son corps, dans un but. Hein? Donc ça nous est dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour, en vue d'eux, hein, là les trois termes sont vérifiés, en vue du perfectionnement des saints, pas en vue de la domination des saints, en vue du perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. En fait, c'est en vue de l'œuvre du diaconat, quoi, du service, hein, et de l'édification du corps de Christ. Et il les a donnés jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ça veut dire qu'il va donner des générations, il va renouveler ces cellules un peu particulières dans le corps jusqu'à ce que l'épouse soit prête. Alors, nous sommes chacun une partie de cette épouse. Notre vie va se terminer le plus tard possible. On va lancer dans des... où le Seigneur va revenir. Il nous a promis que ceux qui se livraient à lui, il allait faire le nécessaire pour qu'on soit gardé irréprochable pour la venue du Seigneur Jésus. Et c'est lui qui le fera. Il nous dit par ailleurs, vous êtes mort, faites mourir. Vous êtes saints, travaillez avec votre salut. C'est en espérance que vous serez travaillez, ajoutez à votre foi la vertu, etc. Donc les deux, hein, on est bien d'accord, les deux choses sont à faire. Mais il a donc donné ces ministères, ces hommes. Il a fait des dons aux hommes, et puis il y a des hommes dons. Voilà, qui disent, on se serait bien passé de ce cadeau-là. Mais c'est comme ça, il a donné. Alors, il a donné les apôtres, hein, littéralement les envoyés. Je ne vais pas développer très... Autant c'est sur les champs de mission, hein, le champ c'est le monde, je pense que les apôtres vont être aussi des fondateurs, hein, qui vont recevoir quelque chose de particulier, ils vont avoir aussi les autres dons, les autres ministères bien souvent, et c'est eux que le Seigneur utilise. On voit les premiers apôtres, il en est encore aujourd'hui, hein, c'est clair, des hommes que Dieu choisit... lors de la prochaine pastorale, il y aura Josie Chaco, là, qui est en Inde, hein, qui a développé un ministère. Enfin, bon, le Seigneur a pris sa vie d'une certaine manière, et puis il développe des églises partout. Voilà. Bon, ça, c'est le ministère de l'apôtre. Le prophète, le ministère prophétique, alors, je ne parle pas du don de prophétie, hein, des dons qui sont faits, mais le prophète, celui qui va, oui, indiquer la direction. On peut s'inspirer des prophètes de l'Ancien Testament, mais c'est aussi celui qui va indiquer la problématique présente au niveau d'une église, au niveau d'une nation, au niveau d'une région, celui qui voit, un peu comme Christ voit ce qui va venir, quoi. Hein? Celui qui alerte sur les faiblesses, sur les dérives aussi. Hein? Pas un rôle facile, ça. Hein? L'évangéliste, celui qui ramène les poissons à l'intérieur du corps. Les poissons sur la mer des nations qui sont perdus. Hein. De ce point de vue-là, nous employons souvent l'image du navire hôpital et d'équipement. C'est une image assez juste. C'est un navire, l'Église est un navire qui navigue sur l'océan des nations et qui récupère les perdus. Hein. Et puis qui les recycle pour pouvoir servir. Donc c'est navire hôpital, navire équipement, navire de guerre. Mais ce n'est pas ceux qui arrivent dans le bateau qu'on vient de tirer comme ça qui font la guerre. Hein. C'est d'autres qui sont passés par l'hôpital et l'équipement, etc. Hein. Voilà, qui sont passés par le perfectionnement finalement. Hein. L'évangéliste, peut-être un mot que je propose comme ça, on pourrait dire c'est des naisseurs, quoi. Hein. Ils amènent des accoucheurs, si vous voulez. Hein. Ils vont amener des gens. Viennent à la vie, puis une fois qu'ils sont nés, ben, ils mettent là dans l'église locale. Hein. C'est bien qu'ils les amènent quand même jusqu'à l'église locale, hein, qu'ils ne laissent pas les nouveaux-nés. Débrouille-toi. Hein. Ils ont besoin de lait un peu. Pasteur et docteur, alors j'avais noté cette image-là, nourrisseur, soigneur, nutritionniste. Hein. Pasteur, il nourrit par la parole, il soigne, hein, il évite de blesser davantage. Bon. Le docteur, peut-être le nutritionniste, qui porte un diagnostic, qui dit tiens, il y aurait besoin de ça. Il y aurait besoin qu'on redécouvre cette réalité spirituelle. Parce que là, on mouline un peu, on a juste oublié qu'on était assis dans les lieux célestes. Ben, ça, c'est des choses à rappeler. Peut-être qu'il va falloir marteler un peu là-dessus. Là. Une nourriture. Tiens, ça peut être très personnalisé, ça peut être par petits groupes, ça peut être un ou deux, ça peut être toute l'assemblée, hein, qui a besoin de nouveaux styles de nourriture. Il faut changer un peu les plats, là. Pas pour faire de la variété, de la distraction, c'est pas ça. Mais il manque un peu de vitamines, voilà. Hein, je crois que le docteur, il a cette capacité-là. En fait, finalement, l'adaptation de la nourriture au stade de développement. Tout ça, j'ai l'air de le présenter de façon un peu, comme ça, plaisante, mais c'est ce que dit Paul aux Corinthiens. Vous voyez la différence entre les Éphésiens, il leur parle de réalité spirituelle extraordinaire. Hein, les Corinthiens, qui étaient tout aussi bien nés de nouveau, etc., mais c'était la catastrophe dans leur vie, il dit « je ne peux pas vous parler ». Je vous parle comme des enfants en Christ, puisqu'il y a au milieu de vous de la dispute, etc. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas les comprendre, je ne veux même pas vous les dire. Je reviendrai plus tard. Ah oui, c'est comme ça. Donc ces ministères ou services s'exercent dans le corps et sous la direction du Seigneur. Verset 16 nous dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance. J'aime bien ce verset. Que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné. Les ministères ne s'exercent pas selon l'idée que celui qui l'a reçu se fait. Des choses des fois qui ne sont pas comprises. Il y a là aussi, c'est vrai, hein, dans certains ministères, une tentation à l'auto-entrepreneur. Gros problème. Hein. Le Seigneur donne à son corps et place aussi à des endroits pour l'édification du corps. Donc voilà cette description, je crois que j'ai essayé de resituer, si vous voulez, cette question des ministères et de leur but, c'est le perfectionnement des saints pour que ça grandisse. Il faut qu'il y ait une croissance harmonieuse dans un corps. S'il y a des parties, il y a des maladies qui ralentissent la croissance et qui amènent des déséquilibres. Il faut que tout ça soit traité et c'est aussi le travail de ces ministères. Le but, ce n'est pas de contrôler toutes les cellules du corps, ça c'est la tête qui s'en occupe. C'est le cerveau qui s'occupe de contrôle et de la régulation générale. Mais par contre, les ministères doivent intervenir à différentes parties du corps pour l'édification, pour la croissance, pour l'encouragement. Je soulignerai, je ne peux pas tout développer, mais je soulignerai une chose. Il est dit « afin », et je crois qu'il y a quelque chose de particulièrement actuel pour notre Église et pour les temps, hein, pas spécialement pour la nôtre, je pense, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction. Et là, on est vraiment dans des temps très, très particuliers. Très particuliers parce que ça a toujours été. Alors, c'est quoi le problème des fausses doctrines? Il y a les fausses doctrines qui sont vraiment fausses. Alors, celle-là, ça se voit assez bien, normalement. Assez rapidement, on peut, Bible en main, montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui est plus subtil, mais tout aussi ravageur, c'est les doctrines qui sont basées sur quelques versets de la Bible et qui sont devenues des choses à travers lesquelles des hommes ou des organisations se sont enorgueillis et surtout à travers lesquelles elles sont positionnées sur un segment, et je emploie volontairement ce mot, pour se distinguer des autres et dire les autres n'ont rien compris, les autres, nous nous sommes au-dessus. C'est toujours pour se mettre ailleurs et plutôt au-dessus qu'en dessous. C'est-à-dire qu'on prend une partie. Et ça, en ce moment, c'est quand même ce qui est extrêmement répandu et qui bénéficie d'un vecteur puissant à travers Internet. Je ne fais pas de thème, mais c'est en ce sens qu'on est dans les époques. Il y a toujours eu, depuis l'Église, je vous recommande ce livre, L'Église ignorée, hein, qui retrace l'histoire de l'Église depuis ses débuts. Il y a toujours eu. Jean, dans ses lettres, nous alerte. Nous alerte sur Dioptrète. Alors, il y a ceux qui ne veulent pas voir les autres du tout. Il y a ceux qui se mélangent avec tout. Enfin, c'est compliqué. Hein, il y a toujours eu. Mais là, il y a une accélération brutale. Et plus que jamais, j'insiste sur ce sujet-là, que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Moi, je le dis clairement, quoi. Ça nous rend tristes. Quand des nouveaux baptisés et des gens dont on sait qu'ils ont vraiment connu une expérience, une nouvelle naissance. Bon, qui partent l'Église parce qu'ils déménagent. Bon, ça va. Parce que considèrent qu'ils ont trouvé mieux. Bon, très bien. Mais vous savez, il y a un signe. Quand quelqu'un part sans rien dire, c'est qu'il n'est pas très bien quand même. Si on peut dire, Bible en main, venir voir un responsable d'Église puis dire, attendez, vous enseignez ça dans l'Église? Je ne suis pas d'accord, ça ne colle pas. Je ne parle pas de ce que pratiquent les uns ou les autres. Dans l'Assemblée, il se passe tout un tas de choses. Mais s'il est enseigné des choses qui sont fausses, que les personnes viennent et disent, attendez, vous avez enseigné ça, vous avez dit ça, ça ne colle pas. Ça, c'est biblique. Mais quand on voit des gens qui s'en vont en disant, ça y est, j'ai compris. Quand voit venir des gens qui disent bah, écoutez, moi je veux me faire baptiser, je suis converti sur Internet, c'est possible, il n'y a pas de problème. Et puis, mais surtout, inenseignable, en posant les pieds dans l'Église. Je dis les choses simplement. Voilà les ministères, ils servent. S'il y a des aînés dans la foi, je voudrais aussi dire quelque chose que je notais cet après-midi. Ça ne veut pas dire qu'un tel ou un tel qui a été appelé à tel service au sens des ministères que nous avons ici soit mieux. Il est aussi, lui, dans le circuit de perfectionnement. C'est pour ça qu'il est dit sur les anciens que ce ne soit pas un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil. Au hasard, c'est parce que c'est le gros, gros danger. Mais tous ceux qui vous servent ici sont dans le processus de perfectionnement, y compris Yves qui a 45 ans. Je ne vais pas dire les points, mais on est dans le processus jusqu'au bout. On passe régulièrement à la moulinette et à la machine à laver du Seigneur, avec l'essorage. Mais, rassurez-vous, il fait l'essorage selon la force qui convient à chacune de ses parties. Il y a l'essorage délicat à 300-400 tours, et puis il y en a qui ont besoin de l'essorage à 1400 tours. Et ils en sortent vivants, un peu fripés, mais vivants. Alléluia. Voilà. Non, vraiment, c'est un sujet important. Je prendrai que celui-là, vous voyez. Puis dit quand même, l'autre thème, c'est que la maturité, elle vient professant la vérité dans l'amour. Alors ça, on peut le décliner. Je lui ai bien dit ces quatre vérités parce que je l'aime. Bon. La vérité dans l'amour. C'est cet amour de Romains 5:5. Celui qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, dont je le rappelle que c'est cet amour-là par lequel nous avons eu l'assurance que ce que nous découvrions était la vérité. C'est pas parce que nous avions tout compris sur le monde entier, la stratégie mondiale, nous avons su que c'était la vérité. Parce que nous avons expérimenté l'amour de Dieu dans nos cœurs, sa compassion, sa miséricorde pour nous, sa bonté pour aller nous sortir de la boue. Et aussi cet amour répandu dans nos cœurs, parce que, et là, je dis avec tout le monde, Seigneur, viens nous visiter, oui. Je le dis, je soupire. Seigneur, je le partageais avec des frères. Viens renouveler ce feu que tu as mis en moi. Viens nous redonner ce premier amour. Cet amour qu'on a expérimenté de ta part, mais je t'en supplie, Seigneur, viens nous donner l'amour. Je sais qu'il existe, parce que je l'ai expérimenté, l'amour pour les frères. Il m'est arrivé des fois, même ici, des tout premiers mois de l'âme habillée, prier pour la moitié des gens de l'église. Comme ça me venait. Je ne connaissais pas beaucoup de monde. Parce que j'avais pas fait une liste. Mais Seigneur, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Viens renouveler, Seigneur. Alors là, je crie, oui, viens visiter, que ces lieux soient visités. Parce que c'est ça qui va nous faire avancer. Parce que sinon, et je ne vais pas le faire ce soir, mais tous les travaux pratiques d'Éphésiens, ils sont inapplicables. Ils sont inapplicables aussi, avec beaucoup de force. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Je me tiens, je résiste, mais bon. Ça va tenir, il va replonger le gars. Il va replonger. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. J'ai réussi aujourd'hui. Encore un jour. Et le troisième jour, madame est arrivée en retard du marché. Et là, j'explose. T'as plus qu'à recommencer, mon gars. Non, si. Il faut que l'œuvre de Dieu se fasse en nous. Et ça, il faut qu'on lui dise, d'accord, Seigneur, tu le fais, tu nous montres. J'accepte de voir. J'accepte de voir ce qui peut rester. Ça m'est arrivé. Des choses qui étaient enfouies. Ça peut être les envies, la jalousie, tout est décrit, hein, tous les fruits de la chair, au fur et à mesure que le Seigneur nous montre. Et là, oui, là, je crois que ces choses-là, je ne parle pas du péché grossier, je le dis, écoutez, c'est pas normal dans l'Église qu'il reste du péché grossier, de la pratique du péché dans lequel on continue en disant la grâce. C'est pas possible ça, parce que ça, cette histoire-là, il y a les moyens de le régler ici, sur cette terre. La chair, ce qui est dans notre chair, nos raisonnements, les trucs de l'orgueil, on aura à lutter jusqu'au bout parce que ce sera réglé quand notre corps sera renouvelé, comme je l'ai rappelé dimanche, mais la victoire sur le péché, nous avons de quoi la remporter maintenant. Donc ça, c'est pas possible que ça reste. C'est pas possible. Dites, si vous voyez des frères et sœurs, dites pas, mais c'est pas possible. Comprenez qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Il meurt faute d'être nourri. Il y a un problème de nourriture. Il y a un problème peut-être d'enseignement. Remettons-nous en cause. Mais il y a un problème qu'on caresse son péché. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Que quelqu'un qui dise je crois en Dieu. Oh ça, je crois en Dieu, je veux bien. Mais je suis chrétien, évangélique, pentecôtiste et charismatique et baptiste et je ne sais pas quoi. Et qu'il y a le péché, l'adultère, la polygamie et je ne sais quoi. Ce n'est pas possible. Je le dis, c'est qu'il y a quelque chose, il y a eu un accident de naissance, il y a eu quelque chose qui n'est pas fait. Ce n'est pas possible. Quand on a vu son péché, quand on a eu la révélation de son péché, on ne peut pas continuer. Et être à l'aise avec ça. C'est tout. La chair, c'est autre chose, comprenez bien. La chair, nos propres volontés, des choses qui ont germé dans nos cœurs, des choses sur lesquelles on a bâti notre vie et qui durent, ça, ça peut mettre du temps, il peut y avoir des luttes, c'est normal. Il y a des choses où on ne doit pas le supporter. Voilà. C'est un processus de transformation, mais la parole de Paul est quand même claire. Vous ne devez plus marcher comme, hein, je ne vais pas développer tous les thèmes, et le début de 5, devenez donc les imitateurs de Dieu. Voilà l'articulation des travaux pratiques qui sont derrière. Vous ne devez plus marcher. Oui, et c'est pour ça que j'avais pris toutes ces précautions. Pas toutes ces précautions, mais fait tout ce préalable. Sinon, on dit, voilà, ça se passe comme ça dans l'église, il y a les mystères, le machin, le perfectionnement, puis vous ne devez plus marcher et vous devez être l'imitateur de Dieu. Tu parles. Si je ne sais pas que je suis dans les lieux célestes, si je ne sais pas qui m'a emmené, si je ne sais pas que je suis avec Christ, si je ne sais pas que... Si Paul ne me rappelle pas la révélation de la hauteur, de la profondeur, de la longueur, de la largeur, de l'amour de Christ, mais comment je vais m'en sortir? Moi, j'ai besoin d'entendre ça pour pouvoir lire. Je ne dois plus marcher comme. Ah ben oui, Seigneur, ben, je n'ai pas envie de marcher comme. Et Seigneur, merci, tu vas m'aider quand tu vas montrer que je suis en train encore de faire des choses pour être aimé, etc. Pardon, Seigneur, j'ai oublié combien toi tu m'aimais. Mais j'ai besoin de me le rappeler, sinon je ne m'en sors pas. Enfin, vous peut-être, moi je ne m'en sors pas sinon. J'ai besoin de toute sa lettre. Voilà. Alors vraiment, voilà le perfectionnement des saints. Ça veut dire, je ne vais pas développer les thèmes qu'on a développés, vous avez les feuilles, on va continuer encore demain, mais je pense que, franchement, le thème qu'on a appris là, il ne va pas faire juste une semaine de jeûne et de prière, il ne va pas faire juste la fin de l'année. Je pense qu'on continue. Pour le coup, je pense que c'est prophétique. Ce perfectionnement des saints. Cette pensée est venue dans un vendredi midi, on n'était même pas tous les anciens. Hein? Il y a un moment qu'a sorti ce mot-là, et moi ça a fait un tilt, quoi. Et il dira, il est encore sous influence, oui, peut-être. Ça a fait un tilt. Le perfectionnement des saints. Il y a une notion dynamique, la sanctification, ça donne des choses concrètes. On rentre là dans le concret, et puis on prend conscience qu'on est tous là, au même régime, quoi. À passer par des moulinets, des travails. Hein. Oh, on va travailler un peu profond. Vous inquiétez pas, vos frères, vos sœurs, c'est pareil. Voilà. Hein. Quand je dis vous inquiétez pas, vos frères, vos sœurs, c'est pareil, c'est pas pour dire, bon, bah, ça va, je continue comme ça. Hein. C'est pour accepter. Acceptons. Ça va nous humilier, on n'arrête pas de le dire. Ça va nous humilier. Waouh. Moi, il m'a montré ça. Je n'ai pas la peine d'aller proclamer devant l'église tous les 8 jours. Hein. Par contre, avoir un frère, voilà, qui en a vécu des choses. Et ça, ça va tisser des liens. Ça, des bons liens, là. Des bons liens. Non pas par le secret partagé, hein, pas par le secret de la confession gardée. C'est pas ça. C'est, mon frère, j'ai eu envers toi de la jalousie, un truc, là, du mal à supporter. Je te demande de pardon, puis prie pour moi, pour que ça va rapprocher les chaises, pas les chaises, mais ça va nous rapprocher sur les chaises. Voilà. Je m'arrête là.